Voici.
Je vais la livrer entre les mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, qui les frappera sous vos yeux. Et l'on pourra tirer de leur cas cette malédiction qui aura cours chez tous les déportés judéens présents à Babylone. Que le Seigneur te traite comme Sidkiyahu et Ahab, rôtis au feu par le roi de Babylone. Voilà ce qu'il en coûte de faire une infamie en Israël, de commettre l'adultère avec les femmes des autres, de prononcer en mon nom des paroles sans que je leur ai donné l'ordre. Mais moi je suis renseigné, je témoigne, oracle du Seigneur. Une manière, évidemment, d'écrire l'histoire après coup et d'essayer de tirer la leçon. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons la vie difficile à vivre que nous avons parfois à choisir parce que c'est ça qui nous est donné. Ou bien est-ce que nous nous révoltons contre le sort, comme nous disons? Nous nous faisons du mal à nous-mêmes et aux autres. On voit bien, tout ceci, c'est l'expression d'un discernement à faire devant sa propre destinée. Jusqu'où est-ce que j'accepte ma propre destinée? Même si c'est dur, même s'il faut être déporté et me trouver dans une toute autre situation. Alors, évidemment, il faut bien dire aussi que tout le monde n'est pas d'accord, qu'on réagit. Courrier des lecteurs, quoi.
Heureusement.
On réagit à la lettre de Jérémie. Les gens qui sont à Babylone, qui sont dans la déche et dans la difficulté, ben, ça ne leur va pas tout à fait, hein. Or, chez Mariahou, et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne quand même des noms propres et des noms de famille. Ce qui veut dire qu'il y a un fondement réel dans l'histoire. Un Shemaïahou de Nahlam envoya de son propre chef, à tout le peuple qui est à Jérusalem, au prêtre Tsefania, fils de Maaseya, et à tous les prêtres, une lettre, ainsi conçue. Le Seigneur t'a établi prêtre à la place de Yehoiada pour exercer la surveillance dans le temple du Seigneur sur tout exalté qui joue au prophète. Ton devoir est de le mettre au cep et au carcan. Il faut lui faire sentir à ce Jérémie. Hein? Pourquoi alors n'avoir pas corrigé Jérémie d'Anatote qui fait le prophète parmi vous? C'est ainsi qu'il a pu nous adresser à Babylone cette recommandation. Ce sera long. Bâtissez des maisons et installez-vous. Plantez des jardins et mangez leurs fruits. Le prêtre Sephania lut la lettre au prophète Jérémie. Mais cette parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Si on dit tout le temps cette parole du Seigneur, ça veut dire que Jérémie ne parle pas de son propre cru. Il reçoit. Cette parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Envoie ce message à tous les déportés. Ainsi parle le Seigneur au sujet de Shemaïahou de Nahlam. Puisque Shemaïahou vous a prophétisé, alors que je ne l'avais pas envoyé, et qu'il vous a fait vous confier au mensonge, eh bien, ainsi parle le Seigneur. Je vais rendre visite à Shemaïahou de Nahlam, ainsi qu'à sa descendance. Aucun des siens n'habitera au milieu de ce peuple pour jouir du bonheur que je veux accorder à mon peuple, oracle du Seigneur, car il a prêché la révolte contre le Seigneur. Vous voyez, hein, le petit refrain aussi, de nous. Tous ces passages sont à lire avec un clin d'œil, parce qu'ils sont écrits avec un clin d'œil. La manière même d'écrire nous dit comment nous devons lire tout cela. C'est-à-dire en prenant un peu de distance par rapport au texte. Et maintenant, pour clôturer le centre du livre de Jérémie, vous avez ce qu'on appelle les oracles de consolation. Il nous a déjà mis sur la piste en nous parlant de la fin de la captivité. 70 ans à tirer, mais enfin, la fin est quand même prévue. Et de même que vous avez, vers la fin de l'exil, des oracles composés par celui que l'on appelle généralement le deuxième Isaïe, chapitre 40 à 55 du livre d'Isaïe, qui sont des paroles de consolation, tenez bon, ça va finir votre exil. Il faudra encore 4-5 ans, mais ça n'est rien, ça va finir. Et ici aussi, il faudra encore 70 ans, mais enfin, ça va finir. Vous avez des paroles de consolation. Alors, celui qui a rédigé le livre tel que nous l'avons, et qui a serré un tout petit peu les oracles, eh bien, il a voulu mettre ici un certain nombre d'oracles d'espérance, de bonheur, tous ensemble. Il a tout ramassé. L'effet est plus fort. Quand on a lu tous ces oracles de malédiction, et puis qu'on a perçu quand même qu'il y avait une issue, des prophéties de bonheur, on peut maintenant vous mettre toutes ces prophéties de bonheur, mais on a fait le même travail qu'avec les psaumes, avec les oracles de malédiction, on a tout groupé. Et on a groupé de la même manière, en mettant bout à bout, en accrochant un wagon à un autre. On voit bien cela parce que l'édition grecque, comme je vous l'avais dit au début, a été faite d'après un texte beaucoup plus court et dans un ordre différent. Et si vous regardez dans vos Bibles, généralement, vous avez le texte grec, on met 70, L2X, 70, on met l'endroit où on peut retrouver le même texte, mais la plupart du temps écourté. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de répétitions chez Jérémie. Et effectivement, on va vous expliquer pourquoi il y a des répétitions, mais ça va venir au chapitre 36. Il y a des répétitions dans le livre de Jérémie, mais le texte grec, comme le premier texte, ou le premier, ou en tout cas un texte hébreu, était plus court. On a laissé tomber beaucoup de répétitions. Donc, on promet la restauration. Et on promet la restauration au moment où on est envoyé en déportation. Donc il ne faut pas se laisser accabler par la difficulté ou par des choses dures à vivre. Mais trouvez-vous un chemin dans ce que vous avez à vivre. Alors vous avez, comment dirais-je, une sorte de symphonie en quatre mouvements. Vous avez le chapitre 30 à peu près, qui est un premier mouvement, le chapitre 31 qui est vraiment le sommet du livre, et puis vous avez une sorte de contre-épreuve ou de preuve concrète que Jérémie a le droit pour lui, chapitre 32 et chapitre 33. Donc vous avez là vraiment un ensemble qui veut donner l'impression d'une espérance plus forte que la détresse ou que la déportation. Croyez en la vie. Voici que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est toujours ce leitmotiv que vous retrouvez. Parole du Seigneur qui fut adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai adressées. L'usage du livre est déjà beaucoup plus fréquent ici, puisque Baruch est son secrétaire. À l'époque de Moïse, on n'écrivait pas encore sur parchemin. Sur la pierre, oui, mais pas encore sur parchemin. Ici, c'est le cas. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je changerai le sort de mon peuple Israël et de Juda, on a ajouté, dit le Seigneur, et je les ferai revenir au pays que j'ai donné à leur père pour qu'ils en prennent possession. Tout à fait deutéronomiste, ça. On revient sur la terre. Et vous avez ici un jeu de mots qui réutilise le terme « shuv ». Shuv, shuvut. Je ferai revenir le retour. Pour donner une expression plus forte. Pardon ? Shuv. En hébreu, ça s'écrit comme ça, c'est plus facile. Si je veux transposer, j'écrirai comme ça. Mais je peux l'écrire aussi comme ça. Ça dépend, hein, les graphies. Il y en a certains, Néa, par exemple, dira, écrira comme cela. C'est un français. Les anglo-saxons l'écriront comme ça, shuv, ou bien shuv. Le B se prononce en V quand il n'est pas au début d'un mot. Et shuv, shuvut, c'est faire revenir le retour. C'est un jeu de mots. C'est difficile, hein, à faire sentir, même si on a essayé ici, c'est difficile à faire sentir les jeux de mots et la musique de l'hébreu. Enfin, voilà, c'est comme ça. Je changerai le sort, c'est-à-dire je ferai retourner le retour. Et je ferai revenir au pays que j'ai donné à leur père pour qu'ils en prennent possession. Le Seigneur est toujours celui qui fait revenir. Et il fait revenir en demandant de quitter. Ça commence avec Abraham. Quitte ton pays. Va vers toi-même. Tu te trouveras quand tu te quitteras. Et Israël, c'est la même chose. Quitte. Hein? Israël en Égypte. Quitte. Et ici, il faut quitter pour aller en exil et quitter l'exil pour revenir chez soi. Et c'est chaque fois dans un changement, dans une mutation, que se passe la possibilité à Dieu de s'immiscer dans l'histoire de quelqu'un. C'est quand nous sommes désinstallés, pour une raison ou pour une autre, désinstallés, quand notre vie n'est plus aussi sûre, en sécurité, qu'il y a une possibilité d'ouverture. Le Seigneur marche, il avance, il ne reste pas au même endroit. Mais pour cela, il faut faire confiance. Voici les paroles qu'a prononcées le Seigneur à l'adresse d'Israël et de Juda. Ainsi parle le Seigneur. J'ai perçu un cri d'effroi. C'est la terreur, non la paix. Destruction de Jérusalem, on est envoyé en captivité. Interrogez donc et regardez, depuis quand les mâles enfantent-ils? Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme femme en travail? Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que le monde est inversé, autrement dit. Au moment où on est mis à mal par les circonstances, pourquoi tout visage s'est-il altéré? Est-il devenu livide? Pourquoi vous vous mettez à pleurer? Oui, qu'il est grand ce jour, il n'a pas son pareil. Tant de détresse pour Jacob, mais dont il sera délivré. Et il y a un des auteurs du Talmud, hein, qui nous raconte l'histoire, précisément, au moment de l'envoi du premier convoi en captivité, de deux rabbins qui se promènent sur les ruines de Jérusalem. Il y en a un qui pleure, qui va de ruine en ruine, et dit, ici se trouvait telle maison, ici tel palais, hein, ici, c'est... Et l'autre gambade sur les ruines. Et celui qui a la mine attristée, il dit, mais enfin... Qu'est-ce qui te prend, hein, de de cambader comme ça au milieu de ces ruines. Et l'autre dit, tu crois aux prophètes? Qu'est-ce que les prophètes ont dit depuis le premier jusqu'au dernier? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils ont dit qu'il y aurait des jours de détresse et qu'après cette détresse, il y aurait la joie. Nous sommes dans la détresse, donc la joie nous attend. Regardons l'avenir qui vient. Et juste, c'est la manière dont il fait le commentaire de ce texte.
Il y eut un soir, il y eut un matin.
Mais le soir d'abord. Le matin, le soir est fait pour le matin et pas le contraire. Ce jour-là, oracle du Seigneur, je briserai le joug qui pèse sur leur nuque. Ah voilà, il reprend l'image, hein. Mais ce n'est pas nous qui brisons le joug. C'est le Seigneur qui brise le joug. C'est-à-dire, c'est la situation qui vous dit ce qu'il y a à faire. Je briserai le joug qui pèse sur leur nuque et je romprai leurs chaînes. Ils ne seront plus au service d'étrangers, mais ils serviront le Seigneur, leur Dieu. Dit encore autrement, même s'ils sont au service d'étrangers, c'est leur Dieu qu'ils serviront, donc ça les rend libres. Et David, leur roi, que je vais leur susciter. Voilà la perspective messianique qui revient. Toi donc, ne crains pas, mon serviteur Jacob. Ne crains pas. L'indicatif de Dieu à travers toute la Bible. Ne sois pas terrifié, Israël, car me voici pour te délivrer des terres lointaines et tes descendants du pays de leur captivité. Et vous retrouvez les deux promesses d'Abraham, hein? La terre et les descendants. Ça, c'est encore un leitmotiv qui traverse absolument toute la Bible. Ces deux désirs fondamentaux de l'homme, hein, dont je parlais tout à l'heure avec Abraham. Ça, ça fait partie de la réalité concrète.
Si au moins on pouvait les synchroniser.
Oui.
Impossible. C'est comme à Bruxelles. On ouvre toutes les rues pour mettre l'électricité, puis on referme tout. 15 jours après, on rouvre toutes les rues pour réparer l'eau ou le gaz. Si on pouvait synchroniser. Car me voici pour te délivrer des terres lointaines et tes descendants du pays de leur captivité. Donc ça veut dire que tu as déjà fait des descendants de l'autre côté. Hein. Jacob retrouvera le calme. Il vivra paisible, sans personne qui l'inquiète. Miché disait déjà cela. Hein. Mais il faut toujours reporter hein, l'avenir. C'est ça qui est pénible. Hein. Quand donc cela viendra-t-il? Mais cela vient. C'est en train de venir. Et il nous faut comprendre, ça c'est toujours aussi présent dans la Bible, que le lieu de l'espérance n'est pas ailleurs qu'au milieu de notre désespérance. Il ne faut pas le chercher ailleurs. C'est là qu'il se trouve. C'est dans notre situation concrète que se trouve le courage pour la vivre. C'est pas facile, hein? Parce qu'on ne l'a pas en stock. Il faut la recevoir au jour le jour. Et nous, nous aimons bien de faire des provisions. Et c'est ce que le texte dit. Me voici pour te délivrer des terres lointaines et tes descendants du pays de leur captivité. Jacob retrouvera le calme. Il vivra paisible sans personne qui l'inquiète, car je suis avec toi pour te délivrer. Est-ce que ma présence ne te suffit pas pour te délivrer? Je vais en finir avec toutes les nations où je t'ai dispersé. Mais avec toi, je ne veux pas en finir. Mais te châtier selon le droit, ne te laissant pas impuni. Comme nous disent aussi pas mal de textes, quand le Seigneur ne nous laisse pas impunis, c'est une grande grâce qu'il nous fait. C'est pour nous signaler qu'il fait attention à nous. S'il nous laissait impunis, ça voudrait dire qu'il ne se soucie pas beaucoup de nous. quand des parents continuent de corriger leurs enfants, d'essayer de les remettre sans cesse sur la voie, c'est qu'ils les aiment. C'est peut-être pénible pour les enfants, mais enfin voilà. Oui, ainsi parle le Seigneur. Incurable est ta blessure, inguérissable ta plaie. Personne pour s'occuper de ton ulcère, pas de remède pour te rétablir. Tous tes amants t'ont oublié. Ils ne te recherchent plus. Oui, je t'ai frappé, comme frappe un ennemi d'un rude châtiment, pour ton crime si grand, tes péchés si nombreux. Pourquoi te plains-tu de ta blessure, puisqu'elle est le signe de l'amour? Moi aussi, je fais mes notes marginales. Je les fais entrer dans le texte. Pourquoi te plains-tu de ta blessure? Ta douleur est incurable? C'est pour ton crime si grand, pour tes péchés si nombreux, que je t'ai fait ce mal. Mais tous ceux qui te dévoraient seront dévorés. Tous tes opposants iront en captivité. Ça va leur tomber dessus aussi, vous savez. Les hommes ne changent pas. Ceux qui te dépouillaient seront dépouillés. Et tous tes pilleurs, je les livrerai au pillage. Ça, c'est la loi des hommes. Car on t'appelait Ijou, donc sur Israël, la femme, hein, comme dans Osée, ou bien dans Isaïe, l'alliance est comparée à l'union conjugale. On t'appelait la répudiée. Notre butin, dont nul n'a cure. Mais je vais rénover ta chair, guérir tes plaies, oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, voici que je vais rétablir, faire revenir le retour des tentes de Jacob. Je vais restaurer le pays. Mais au fond, l'important n'est pas que le pays soit restauré, l'important est de découvrir que le Seigneur aime celui qu'il restaure. Je vais rétablir les tentes de Jacob. Je prendrai en pitié ses habitations. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La maison forte restaurée en son lieu. Il en sortira l'action de grâce et les cris de joie. Le temple sera reconstruit, effectivement. Mais il faudra attendre 520 pour cela. Il en sortira l'action de grâce et les cris de joie. Je les multiplierai au lieu de les réduire. Je les glorifierai au lieu de les abaisser. Ses fils seront comme jadis. Son assemblée devant moi sera stable. Je visiterai tous ses oppresseurs. Son chef sera pris dans son sein. C'est-à-dire qu'un des descendants de David deviendra le chef. Le Messie, loin, son souverain sera issu de lui. Je lui donnerai audience et il s'approchera de moi. Qui donc, en effet, risquerait sa vie pour s'approcher de moi, oracle du Seigneur? Autrement dit, c'est le Seigneur qui va s'approcher d'Israël, alors que tout le monde... Tous ceux que Israël poursuivait, tous ses amants, c'est-à-dire aussi bien hein, les rois de Moab, d'Ammon, d'Aman ou d'Égypte, tous ses amants.
Ça peut pas être les idoles aussi.
C'est toujours, hein. Idoles et nations sont toujours liées. Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Cette parole d'alliance qui revient, si vous avez le courage de lire toute la Bible, et de souligner chaque fois que cela vient, vous verrez que ça scande absolument toute la Bible. C'est l'alliance qui se poursuit. Je serai. Mais je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, ou vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Nous traduisons ça comme des futurs. En hébreu, ce sont des inaccomplis. C'est-à-dire, je suis en train de vous rafistoler, là, de vous restaurer, de vous remettre debout. Je suis en train. Ah ouais, mais je n'en peux plus. Je suis en train. Allez, prenez votre médicament. Hein, laissez-moi vous penser. C'est en route. C'est en route. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Voici une bourrasque ou un ouragan du Seigneur qui éclate, un ouragan qui se déchaîne. On a déjà vu cette image, hein, elle est aussi dans Job, je vous l'ai dit. Sur la tête des impies, il fait irruption. Vous allez voir, les hommes se fabriquent le châtiment constamment. Sur la tête des impies, il fait irruption. La colère du Seigneur ne se détournera pas, qu'il n'ait accompli et réalisé le dessein de son cœur. Dans l'avenir, vous comprendrez cela. Voilà le premier mouvement, la promesse. Et la promesse, il ne faut pas la chercher ailleurs que dans la détresse. Elle est là. Elle signifie que je suis attaché à vous et que je prends soin de vous. Ça ne console pas toujours, hein, nous sommes d'accord. Mais enfin voilà, c'est ce qui est à vivre. Maintenant, deuxième mouvement de la symphonie. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de tous les clans d'Israël, ils seront mon peuple. Vous voyez, ça c'est la formule d'accrochage. On accroche le wagon, hein, à celui qui précède. On vient de parler d'alliance, on reparle d'alliance. Mais ici, de tous les clans d'Israël, tous les clans, c'est chacun qui est rattaché à cette alliance. Parce que l'alliance peut être très lâche avec tel clan ou avec telle tribu, hein. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce au désert le peuple échappé à l'épée. Il a trouvé grâce au désert. C'est le désert qui recommence. Dans la solitude, comme c'était le cas lorsqu'on a quitté l'Égypte, on est passé 40 ans au désert. C'est la période de maturation. La période où la liberté se façonne intérieurement. Ainsi parle le Seigneur, il a trouvé grâce au désert le peuple échappé à l'épée. Israël marche vers son repos. C'est vraiment la marche au désert, hein, telle qu'elle est dite, soit dans le psaume 95, hein, soit dans le livre de l'Exode. On marche vers son repos, le repos sur la terre. Le repos signifie aussi le repos en Dieu, hein, requiescat in pace. Israël marche vers son repos. De loin, le Seigneur lui est apparu. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Nous avons quand même attendu longtemps, hein, avant de voir s'exprimer l'amour. Et donc au creux de la détresse, il s'exprime dans une grande tendresse, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Aussi t'ai-je conservé ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti. On dit les choses de façon double. Je te bâtirai et tu seras rebâti. C'est toujours le potier qui façonne. Je fais le pot et le pot se laisse faire ou se fait. Ainsi parle le Seigneur, il a trouvé grâce au désert le peuple échappé à l'épée. Le peuple qui se trouve en captivité. De loin, le Seigneur lui est apparu. De loin, ça veut dire depuis l'éternité, hein, depuis avant ta naissance. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Aussi t'ai-je conservé ma faveur. Puisque c'est éternel, ça tient. Hein. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, vierge d'Israël. La répudiée qui devient vierge, qui se revirginise. C'était une prostituée c'est redevenu, elle est redevenue vierge. C'est une image qui date d'Osée, qui a été reprise tant de fois par Isaïe, et qui revient avec Jérémie, et qui reviendra encore avec Ézéchiel. De nouveau tu te feras belle avec tes tambourins. Tu sortiras en dansant joyeusement. C'est la joie du fiancé et du fiancé que nous avons vu, hein, qui s'exprime dans les danses du mariage. De nouveau, tu planteras des vignes aux montagnes de Samarie. Ils ont planté les planteurs, ils cueilleront. Oui, un jour viendra où les veilleurs crieront sur la montagne d'Éphraïm, « Debout, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu. » Il arrivera un moment où Dieu redeviendra le centre d'attirance de toutes les tribus d'Israël. Car ainsi parle le Seigneur. Criez de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites-vous entendre, louez, proclamez. Qu'est-ce qu'il faut proclamer ? Le Seigneur a sauvé son peuple, le reste d'Israël. Voici que je les ramène du pays du nord. Ils les rassemblent, les extrémités du monde. Ils sont tous là, aveugles et boiteux, femmes enceintes et femmes en couche. C'est une grande foule qui revient d'ici. Ils étaient partis dans les larmes, vous reconnaissez le psaume, Jean 36. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Je vais les conduire au cours d'eau par un chemin uni, où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, voilà le terme qui vient. Je suis un père pour Israël. Et Ephraïm, autre manière de parler d'Israël, et Ephraïm est mon fils premier-né. Ça, c'est l'oracle pour Israël. Au moment où vous partez, on vous dit, vous reviendrez. Nation. Israël est un exemple pour les nations. Il a eu l'exemple de quoi ? Ben, qu'on ait des enfants bien-aimés du Père, tiens. Maintenant, les nations pourront peut-être en prendre de la graine. Si nous vivons comme des enfants bien-aimés de Dieu, peut-être bien que des gens autour de nous, qui ne croient pas, découvriront quelque chose. Peut-être bien. Pourquoi pas ? Nation, écoutez la parole du Seigneur. Mais notez que cet oracle sur les nations est dit à Israël, hein, il est adressé à Israël, pour dire quoi ? Ce que tu vis, Israël, dans ta singularité, c'est ce qui est prévu pour tout un chacun. Mais il faut bien qu'on commence par quelqu'un, généralement par le fils aîné. C'est lui qui doit montrer comment le Père aime. Nation, écoutez la parole du Seigneur. Et c'est un des passages que nous avons encore dans l'Office. Un beau passage. Nation, écoutez la parole du Seigneur. Annoncez-le dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un pasteur son troupeau. Les mauvais pasteurs ont disparu. Il le garde, le Seigneur, comme un pasteur son troupeau, le bon pasteur. Car le Seigneur a racheté Jacob, il l'a délivré de la main d'un plus fort. Tout ça est déjà comme si c'était réalisé. Ils viendront en criant de joie sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les bénédictions du Seigneur, vers le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche. Ce sont les termes que l'on utilise pour dire la prospérité. Vers les brebis et les bœufs, Leur âme sera pareille à un jardin bien arrosé. Ils ne languiront plus. Alors, ce sont les images de la joie maintenant qui viennent. La Vierge, la jeune fille prendra joie à la danse. Jeunes et vieux seront heureux. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai. Je les réjouirai après leur peine. Je fournirai aux prêtres abondance de graisse. C'est eux qui avaient les bonnes parties des victimes, hein, c'est la trouma, la partie réservée aux prêtres.
Merci aux charges fédérales.
Je fournirai aux prêtres abondance de graisse et mon peuple sera rassasié de mes bénédictions. Oracle du Seigneur. Vous voyez comment ça fait contraste. Hein. Bon, ces chapitres que nous sommes en train de lire font vraiment contraste l'un avec l'autre. Nous venons de voir des paroles de lamentation, de malheur, et puis on vous dit tout de suite la promesse. Il faut quand même faire 31 chapitres hein, pour y arriver. Donc, tout à l'heure, nous avions une promesse encore un peu assourdie, disons, une musique qui n'était pas trop tonitruante. Maintenant, il y a de grands cris. Les cuivres qui donnent. C'est le retour. Mais le mouvement n'est pas terminé. Et tout d'un coup, on retombe. Il y a comme le souvenir de la souffrance qui remonte. Ainsi parle le Seigneur. Écoutez, à Rama, on entend une plainte. Des Ramot, il y en a des quantités. Hein. C'est une hauteur. Rama, hein, c'est une hauteur en Israël. À Rama, on entend une plainte, une amère lamentation. C'est Rachel. Rachel qui pleure ses fils. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils parce qu'ils ne sont plus.
Massacre des innocents.
Exactement. Chapitre 2 de Saint Matthieu. Et pour que nul n'en ignore, nous allons prendre ce texte. Pourquoi est-il cité comme cela par Matthieu ? Mais quand on cite un texte, pour eux qui connaissent bien le contexte, c'est facile, ils le remettent tout de suite dans le contexte. Pour nous, on a oublié, évidemment. Donc c'est le retour de captivité, le retour de toutes nos captivités. Mais il y a des larmes, hein. On ne peut pas empêcher tous ceux qui sont morts d'être pleurés. Vous aviez la visite des mages, dont j'ai parlé tout à l'heure, et cette visite des mages, qu'est-ce qu'elle nous disait ? Matthieu citait un texte de Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Il y a déjà un chef qui était sorti de Bethléem, hein ? Puisque David vient de Bethléem, Jessé. Son père. De toi sortira un chef, de toi est sorti un chef, de toi sortira un chef, qui sera pasteur de mon peuple Israël. Et c'est cette idée messianique qui est déjà présente chez Isaïe, bien sûr, en tout premier lieu, chapitre 7 et 9 et 11, et chez Jérémie. Et puis un peu après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse. » C'est le peuple d'Israël hein, qui retourne en Égypte et qui doit y rester jusqu'à ce que le Seigneur le ramène. Car Hérode, ici ce n'est plus le pharaon, c'est Hérode, va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Joseph en Égypte, comme autrefois le Joseph en Égypte. Dès qu'on est, on s'appelle Joseph, c'est pour aller en Égypte et pour en sortir. Après être passé par la prison, hein. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi devait s'accomplir cet oracle prophétique du Seigneur, d'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Le fils, évidemment, c'est Israël, dans le texte d'Osée. Ici, ça devient le fils, celui qui résume en sa personne, qui assume à sa personne, tout Israël. Un homme et tout homme. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Dans Rama s'est fait entendre une voix qui sanglote et moult se lamente. C'est Rachel. Rachel, c'est la mère, hein. C'est la maman de tous. Rachel Immine. Hein, Rachel, notre mère. Vous avez une rue à Jérusalem qui s'appelle Rachel Immine. C'est Rachel pleurant ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Et Rachel meurt en mettant au monde son enfant, Benjamin, à l'entrée de Bethléem. Rachel qui pleure ses enfants. Oui, il y a de la lamentation. On pleure, c'est mort. Quand les hommes tuent, on pleure les morts. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils parce qu'ils ne sont plus. Donc c'est un passage obligé. Il ne faut pas le louper. Ça fait partie de la vie, de pleurer les morts. Et puis, juste après ce petit oracle de rien du tout, un verset, 31-15, c'est pas pour rien hein, que Matthieu le prend. C'est la lamentation sur la mort des enfants, des gens qui sont tués pour rien. La guerre, ça ne sert à rien. Et donc derrière ces innocents, c'est tous ceux qui paient, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Mais ça, c'est la loi des hommes. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez presque tout le temps des hommes qui font la guerre et des femmes qui mettent au monde. La mort et la vie. Et tout le temps, vous voyez ça, c'est vrai, un tissu à travers tout l'Ancien Testament. Ainsi parle le Seigneur. Cesse ta lamentation, sèche tes yeux, car il est une compensation pour ta peine. Ils vont revenir du pays ennemi, tes fils, hein, les fils que tu pleures parce qu'ils ne sont plus. Ils sont partis, ils reviendront. Ce sera peut-être d'autres. Mais l'idée, c'est que la fécondité continue. Le passage de Dieu continue. Et c'est pourquoi la ligne de grâce que vous pouvez reprendre partout dans l'Ancien Testament, hein, en reprenant toutes ces figures de femmes notamment, c'est toujours la femme qui survient à un moment où le sort hésite pour reprendre le relais de la vie. Et c'est ce que j'appelle le chemin de l'Immaculée Conception. La grâce qui traverse les tueries, les massacres humains. C'est Dieu qui suscite la vie toujours à partir de la mort.
C'est une conception. conception très différente. Les mères israéliennes maintenant et les mères palestiniennes. Les mères israéliennes sont encore comme ça, mais c'est pas la caractéristique des mères palestiniennes. On a l'impression qu'elles se réjouissent de la mort de leur fils.
Elles ne se réjouissent pas. La parole que je vous disais, je ne l'ai pas, s'il est là. Il faut voir les pages que le père Émile Choufrani dit à ce sujet. Elles ne se réjouissent pas de la mort. Elles se réjouissent du fait qu'elles annoncent la vie à travers la mort. Même au mépris de la leur. Et il faut lire les pages, parce que lui a bien perçu comment vit une femme palestinienne. Ben, il est entouré. Mais ça nous apparaît comme ça, et on le met un peu trop en valeur dans les journaux. Mais ce n'est pas la réalité profonde. En tout cas, ce n'est pas la réalité biblique. Il y a des choses qui peuvent être faussées aussi, un peu partout. Mais ici, c'est l'idée. C'est l'idée que le Seigneur, à travers la mort et les massacres, le Seigneur est pour la vie. Et qu'il veut restaurer. Mais le sommes-nous, nous. Ça vaut pour toutes les morts. Hein. Il y a des massacres sanglants, il y a des massacres non sanglants. Parfois, la critique est plus acerbe et fait parfois mourir davantage que le canon.